Merci beaucoup, monsieur l'académicien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de l'Institut Pasteur. N'est-ce pas ? Vous allez voir que la santé est un thème extrêmement important qui va nous relier avec cette histoire d'eau. Merci beaucoup, monsieur le président, d'Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Là encore, on va peut-être découvrir pour certains une initiative absolument intéressante. Ce qui nous relie ce matin, c'est donc La Terre à Soif, aux éditions Fayard. Ça, c'est le livre d'actualité. Et puis cet ouvrage que vous avez commis il y a 15 ans, 2 ans et demi de Tour du Monde, L'avenir de l'eau, petit précis de mondialisation. Souvenez-vous, c'était le 2e tome après nous avoir parlé du coton. Et c'est là que nous avons commencé à apprendre, et merci encore, monsieur Orsena, ce que pouvait être l'écologie littéraire. Et merci d'être là. Je crois que si on est si nombreux, parce que vous avez vraiment cette capacité à raconter, cette faculté d'alerter, de nous émerveiller, et on va voir ce matin que vous pouvez aussi, ô combien, proposer des solutions. Alors, de quoi s'agit-il pour La Terre à Soif ? On pourrait croire qu'il s'agit uniquement de parler d'assèchement, mais pas seulement, parce que La Terre à Soif, mais parfois la Terre dit stop, il y a trop d'eau. Et cette sorte de schizophrénie qui nous attrape, hein, que l'on doit considérer quand on parle d'eau, je pense qu'on va évoquer ça ensemble. De quoi s'agit-il ? De 33 portraits. Oui, finalement, ce sont des portraits agrémentés de cartes, puisque vous avez fait appel à des géographes, des cartographes, de chiffres précis, car là, c'est à une autre de vos fonctions que l'on va faire appel, c'est celle d'économiste au départ. Et finalement, vous avez travaillé sur une matière première. Cette matière première, c'est l'eau. Et ces portraits, cette idée de personnifier comme ça les fleuves, d'où vous est-elle venue ? Pourquoi tout d'un coup, c'était urgent pour vous de faire ça ?
D'abord, merci. Ensuite, je vous présente mes excuses. Si je n'étais pas là hier, c'était pour une raison précise, c'est que Hélène Cardenco-Causse nous a quittés. Hélène Cardenco-Causse était ma maman, notre maman, je l'appelais notre mère supérieure, et elle nous a quittés. Il y a eu une cérémonie très bouleversante hier à Saint-Germain-des-Prés, qui est la paroisse de l'Académie française, et avec un rite catholique, mais aussi avec une participation orthodoxe, puisque évidemment il y avait la référence à la Russie. Et donc c'était un moment bouleversant, et nous avons pris immédiatement la route après la cérémonie, et il a commencé à pleuvoir. Parce que plus je parle de sécheresse, plus il pleut. C'est-à-dire que j'ai un nouveau métier maintenant, je suis une sorte de chaman, c'est-à-dire j'ai un lien facturé, plus ou moins cher, avec les maires et les présidents de conseils départementaux, et quand j'arrive quelque part, il pleut. Et donc, c'est un nouveau métier, ce qui veut dire que je me souviens des manifestations contre la réforme des retraites. Je passe devant rejoindre mon domicile, et il y avait un parcours, et les gens de la CGT disent « Ah, Orsena, avec nous, avec nous !» Et je dis « Mais ça fait exactement 20, ça fait 15 ans que j'ai dépassé l'âge pivot, ça fait rien !» Ça fait rien, etc. Voilà. Et donc, pourquoi ? Alors, pardonnez-moi, mais je suis quand même le roi de la digression. Donc, je vais quand même répondre à votre question. Pourquoi ?
Merci.
Pourquoi ? Mais avant, je vais juste dire un petit mot. J'ai su, à l'âge de 8 ans, que je naviguerais toute ma vie, puisque c'était l'île de Bréa, et que j'écrirais toute ma vie. Et pour moi, écrire et naviguer, c'est la même chose, pour une raison, c'est que sur la page blanche, comme sur la mer, il n'y a pas de chemin préétabli. Ça, c'était clé. J'ai su aussi que c'est pas évident que je gagne ma vie comme écrivain, me disais-je. Donc il faut bien que j'ai un métier. Donc je vais essayer d'être prof, et prof de matière première. Pourquoi matière première ? Parce que à l'époque, quand j'arrive à l'âge adulte, c'était le moment où un certain nombre de pays accédaient à l'indépendance. Et je me disais que si ces pays accédant à l'indépendance géraient le mieux un patrimoine très important qu'ils ont, c'est-à-dire les matières premières, ils réussiraient leur indépendance. Donc j'ai commencé à apprendre d'abord et ensuite enseigner pendant longtemps les matières premières. Et donc le premier cabinet ministériel auquel j'ai participé, c'était le cabinet chez Jean-Pierre Cotte de la coopération internationale. Et j'étais chargé des matières premières. J'ai eu ce moment absolument merveilleux pour un prof, c'est que fin avril 81, j'enseignais la stabilisation des cours des matières premières en Afrique de l'Ouest, et qu'un mois après, l'ambassadeur me disait, monsieur le conseiller, François Mitterrand venait d'être élu entre-temps, monsieur le conseiller, il y a une crise sur le cacao, qu'est-ce qu'on fait ? Pied total. Imaginez, parce que j'étais en charge du cacao, du café, de l'uranium. C'est vous dire que la question actuelle du Niger me touche très, très, très profondément. Donc, les matières premières, pas du tout à la mode à l'époque. On disait, pourquoi tu ne fais pas dans la finance, pourquoi tu ne fais pas dans le numérique, etc. Et puis, depuis quelque temps, les matières premières, on se dit que quand même là-dessus. Et je reviens à l'eau. Vous voyez, j'y arrive. J'y arrive. Parce que, quoi qu'académicien, j'ai encore ma tête. Donc, j'y arrive. Et pourquoi ? Je me trouvais, à la suite d'un premier projet, c'est-à-dire revenir à l'économie, bien longtemps après revenir à l'économie, j'avais travaillé sur le coton. Et le coton, donc je fais un livre sur le coton, mon éditeur me dit, bon, on va publier, mais enfin, n'espère pas en vendre beaucoup. Au bout d'un moment, il me dit, t'as vu les tirages ? Et c'était fou. Et je lui dis, bah, tu parles, heureusement j'ai des tirages, parce que comme j'ai une vie personnelle un peu agitée, j'ai beaucoup de frais. Et donc j'ai vu les tirages, et il m'a dit cette phrase inouïe, pour un lecteur de Tintin depuis le plus jeune âge, il m'a dit, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, silence, je paye. Évidemment, il ne m'a plus jamais revu. Et donc je suis parti. Je me trouvais donc en Ouzbékistan. C'était à l'époque, on prenait l'avion, on s'en foutait du CO2, vous savez, etc. On prenait l'avion tout le temps. Je me retrouve en Ouzbékistan, au nord de Samarkand, dans un petit village. Et donc, on cultivait du coton, comme beaucoup d'endroits en Ouzbékistan. Et tous les robinets étaient ouverts. Et je dis au chef de village, via l'interprète, une dame sublime d'ailleurs, je dis à l'interprète que ça serait bien de fermer les robinets. Et ils montent l'Himalaya, ils me disent que vous pensez qu'à un moment donné, nous manquerons d'eau. Et vous savez que dans le coton a besoin d'eau, et dans des tas d'endroits, deux fois de l'eau, d'abord pour retirer les sels venant des océans qui étaient là dans les temps les plus anciens, et ensuite de donner de l'eau dont a besoin la plante. Et donc je me suis dit, oh là là, l'eau c'est quand même très passionnant, c'est la première des matières premières. Donc je me suis dit, je vais raconter l'histoire de l'eau. Je raconte l'histoire de l'eau. Il y a 15 ans, après 2 ans et demi d'enquête, on me dit, c'est vraiment intéressant. Quand on commence comme ça, c'est mal barré. Genre, il a des qualités. Vous voyez le genre, vous savez que votre rendez-vous est plombé. Non, vous avez des qualités, restons amis si vous voulez. Vous voyez, ça vous rappelle peut-être des trucs. Et donc voilà. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc quand je fais ce livre, on dit, c'est bien, c'est exotique.
Voilà.
Arrêtez de nous alerter. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que jamais la France, virgule, pays tempéré, virgule, ne manquera d'eau. Jamais. Surtout pas en Bretagne, où il peut tout le temps. Je confirme. Et donc, là. Et donc, 15 ans après, je me suis dit, oh là, c'est en train quand même de changer un tout petit peu cette affaire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée de passer de la matière au personnage. Parce que l'eau, c'est une matière, même si c'est une matière première, c'est une matière. Et l'eau est partout pareille. Alors que chaque fleuve a une identité. Et que chaque fleuve est un être vivant. Et à partir du moment où vous défendez des personnages, vous pouvez adopter. Parce que ça parle de vous. Et je voudrais deux choses. D'abord, vous dire que nous sommes en train de lancer. Alors, il y a eu, comme vous savez, un changement à la tête de l'éducation nationale, mais on va continuer. J'ai eu l'idée de proposer à certaines écoles qui seraient volontaires, bien sûr, proposer aux classes de CM1, CM2 d'adopter 200 mètres de rivière ou 200 mètres de cours d'eau. pour les faire venir avec les profs, bien sûr, les faire venir régulièrement, leur dire voilà la santé, voilà comment ça marche avec l'Office français de biodiversité. Regardez un peu ça. Ça existe déjà, ce qu'on appelle les aires maritimes éducatives. Et bien maintenant, il y aura les aires fluviales éducatives. Dire voilà l'eau. L'eau, c'est le personnage. Donc on adopte. Et en plus, on va faire des parrainages. C'est-à-dire que je suis en train d'organiser un jumelage entre mon petit fleuve breton, le Trieux, et l'Amazone. C'est-à-dire qu'il y aura une famille de Pontrieux qui va aller à Belém, à l'embouchure, et puis réciproquement, il y a des Brésiliens qui vont venir, tout ça. Ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est très concret. C'est-à-dire leur dire c'est une rareté, c'est un personnage.
Alors pour créer ces personnages, quelle a été votre méthode?
Attendez, parce que je...
Je crois que je vais m'asseoir.
Je pense que j'aurais rarement eu autant de aussi peu de boulot. Parce que je voulais vous dire aussi une autre dimension. Je vais vous lire un petit texte. Ce jour-là, je regardais la construction d'un barrage sur le Mékong. Soudain, dans l'assourdissant vacarme des engins de chantier, j'entendis la voix de ma femme. C'est pareil. Je me retournais. Elle avait fermé les yeux. Écoute, le sang, quand on lui rétrécit le passage, quand les artères commencent à se boucher, le sang fait exactement le même bruit. Écoute, tu entends la différence avec ce matin, à Luang Prabang, le fleuve était libre, ici on l'emprisonne, il est malheureux, écoute. Il faut vous dire que ma femme Isabelle est médecin, médecin vasculaire. Depuis 30 ans, elle promène une sonde sur des êtres humains. Mais elle ne se contente pas de scruter son ordinateur, elle tend aussi l'oreille. Car chaque flux a sa musique, dont certaines pas du tout rassurantes. C'est en rentrant à Vientiane au milieu d'une forêt de teck que l'inné nous est venu. Au fond, elle et moi, le médecin et l'écrivain reporter, nous faisions le même métier. Je m'occupais des grands fleuves, ceux qui irriguent la planète. Elle prenait soin des plus modestes, ceux qui transportent en nous l'oxygène et la vie jusqu'aux extrémités de nos corps. Nous allions écrire 2 livres. Moi, j'écris le premier sur la fragilité des grands fleuves. Et nous sommes en train d'écrire le 2e sur ces rivières minuscules qui coulent en nous. Quelque chose nous disait que ces 2 échelles allaient se parler, que le tout petit allait avoir des choses à dire au plus grand et réciproquement. Selon de vieilles pensées, le tout est inscrit dans le microcosme. De là vient notamment la vérité des jardins. Et reprenant dans l'histoire de la pensée, il y a quelque chose qui s'appelle, et quelque chose qui me frappe énormément, et ça c'est une pensée du Moyen-Âge, et juste de la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, qui s'appelle l'universelle analogie. C'est-à-dire entre le petit et le grand, et tous les éléments du vivant se ressemblent et se rassemblent. Dernier point, avant de repasser la parole, dernier point, c'est que c'est l'exemple même que si les idées générales sont insupportables, parce qu'il faut toujours les ancrer dans des lieux précis, ce qui est extrêmement important, c'est la culture générale. C'est-à-dire qu'on me accuse touche à tout, je les emmerde. Car la vie touche à tout. On a bien vu au moment de la pandémie, et là ma professeure de biologie ici, Pascale Cossard, que je salue affectueusement et avec une immense humilité, ma professeure de biologie dit que, évidemment, ce qu'on a vu au moment de la pandémie, une santé, si l'environnement va mal, le règne, tous les règnes vivants, végétaux, va mal, etc. Donc il y a ce lien-là. Donc vous voyez, c'est dans cette vision un peu générale que j'ai mené cette enquête et nous travaillons beaucoup avec Pasteur, parce que avec Pascal notamment, on a eu ce moment formidable du 200e anniversaire de la naissance de Pasteur. C'était des grands moments pour moi, j'y connais que dalle. Et donc j'ai quand même appris petit à petit, et c'était dans tous les domaines. Donc vous voyez, c'est la santé, voilà. Donc il y a une sorte de cette idée comme ça de l'unité du vivant, que je voulais vous dire ici. Et maintenant, coupez-moi la parole parce que je peux parler extraordinairement longtemps. En dépit de mon physique élancé et sensuel, vous n'avez pas remarqué que je suis cubain, donc je peux parler aussi longtemps que feu Fidel Castro, avec un peu plus d'amitié pour la démocratie, mais je peux être interminable.
Alors, je revenais basiquement à mon rôle de journaliste premier niveau. Après le pourquoi, il y a le comment, c'est-à-dire on voudrait être tous un peu petite souris dans votre sac à dos et voir comment vous choisissez d'évoluer, d'aller. Vous n'aimez pas les chemins tracés, mais bon, pour aborder ces différents portraits, comment fait-on ? Comment faire le portrait d'un fleuve ?
D'abord, il faut que quelqu'un paye, c'est l'éditeur. Donc, c'est le lecteur. Si j'ai pas de lecteur, j'ai pas d'éditeur. Si j'ai pas d'éditeur, j'ai pas de voyage. Donc, merci. Merci à vous, merci. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on prend un personnage. Donc, on prend le coton, on prend le papier, on prend le cochon, on prend l'eau, et on raconte l'histoire du personnage. J'ai fait des biographies d'êtres dits vivants, mais j'ai fait aussi le portrait de matières dites qui sont aussi vivantes. Et pour moi, raconter Beethoven, La Fontaine ou Beaumarchais, c'est comme raconter un fleuve. Donc ça, c'est 33 fleuves. Et quand vous demandez aux gens, est-ce que vous n'avez pas un fleuve ou une rivière qui est en vous, ou une île, pourquoi vous n'avez pas ? Et là, je salue Marie, c'est-à-dire tous ces lieux. Moi, vous savez, j'ai eu un bol insensé dans mon existence et beaucoup de prix. Le prix qui m'a fait le plus, et encore qui continue, c'est le Grand Prix de la Société de Géographie. Je me sens géographe. Qu'est-ce que c'est la géographie ? C'est la science des interactions et des lieux. Comprenez, c'est ce mécanisme-là. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, premier temps, un personnage. Le financement, je l'ai. Et ensuite, on s'en... Alors après, il y a les réseaux. Les réseaux, ils sont toutes sortes. Il y a le réseau diplomatique. Il y a le fabuleux réseau des alliances françaises, que je salue. J'ai eu l'immense honneur, il y a 3 semaines, d'être le parrain de la grande rencontre des profs de français dans le monde. Imaginez ce que c'est, des gens qui ont choisi d'aimer notre langue. Enfin, c'est quand même invraisemblable de dire ils aiment notre langue. Et moi, il y a des moments, si on me demande est-ce que tu es français ou est-ce que tu es francophone, j'hésite. Et quelque chose me dit que je serais plutôt plus francophone que français. Vous voyez, ce genre de mécanisme, plus il y a les réseaux scientifiques, plus il y a les réseaux des traducteurs, plus, puis l'âge. Quand on bouge encore et qu'on a accumulé des années, on a accumulé des amitiés. Plus les navigateurs, bien sûr, qui ont des réseaux partout, plus les ONG, plus... Enfin, ben, c'est une longue vie, vous savez, 76 balais et plutôt actif. Donc, je veux dire, les amitiés. Moi, je suis rien sans l'amitié. Rien. Toute ma vie, c'est l'amitié. Un romancier, c'est quoi ? Il vit la vie des autres. Parce qu'il est un peu à l'étroit dans sa vie, comme ça. Donc, ça, c'est assez facile. Donc, on a des liens. Et puis, ensuite, on raconte. Et puis on utilise aussi la modernité. Parce que j'arrivais pas, moi, dans les lieux, dans les moyens de transport un peu agités. Donc, crayonné. Donc, maintenant, j'ai ma petite tablette iPad. Et le soir, dès qu'il y a un réseau, pof, j'envoie. Comme ça, je perds pas, etc. etc. Donc, c'est le pied, quoi.
Alors, 33 portraits. Je commence par le manque, parce qu'on en a un tout petit peu parlé là.
Oui, et c'est ce que vous me touchez beaucoup, parce que si j'ai un problème dans la vie, c'est pas le manque, c'est le trop.
Non, mais ceux que vous n'avez pas pu visiter, vous avez quelques mots là-dessus, et ça rejoint à l'actualité d'hier matin, mais c'est la Russie. Ça permet de qualifier à quel point... il y aurait vraiment à tenir compte de l'eau pour tout ce qui relève de la diplomatie.
Alors, excellente question. J'ai ce manque. J'ai pas pu aller en Russie parce que on a vu l'invasion terrible de la Russie sur l'Ukraine, bien sûr. J'ai pas pu aller en Inde parce que c'était le moment où il y avait la pandémie qui commençait. D'ailleurs, qui honnêtement m'a pas surpris. Parce que, étant donné les liens qu'il y a sans arrêt, étant donné le flux touristique, par exemple, comme j'ai travaillé, j'ai fait un livre qui s'appelle « Géopolitique des moustiques », j'ai vu comment ça se passait. et que le Zika, par exemple, est arrivé aussi par des larves de moustiques qui étaient dans des pneus d'occasion qu'on avait achetés en Asie pour les transmettre au Texas et qui sont brutalement réveillés et qui en ont potentiellement porteur. Là aussi, sur les moustiques, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais d'alerter? Et je dois vous dire que le livre sur les moustiques a été celui de tous mes livres qui s'est le moins vendu. Et j'ai demandé pourquoi. Les libraires, ils disent, je pense qu'ils ont peur que le livre pique. Et voilà. Et là, on me dit, et tous les départements français accueillent aujourd'hui des moustiques tigres potentiellement porteurs de différentes saloperies, dont la dengue. Donc on va dire, comment t'alertes? Et c'est comme ça que ça se passe, c'est ça les liens. C'est ça le lien qui est partout. Donc voilà, donc à partir de là, c'est assez facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lien, et là encore une fois, je salue Pascal. Quand j'ai commencé mon premier livre de vulgarisation, c'est un mot qui est laid en français, parce que vulgaire, vulgarisation, vulgaire. Le mot, il est plus joli en anglais parce que c'est popularisation. Et moi, je ne suis pas du tout savant. Je suis prof. Prof, c'est-à-dire que j'adore apprendre et transmettre. Et donc, le premier livre de vulgarisation, c'était sur le Gulf Stream. Parce que je fais des régates depuis que je suis tout petit et j'ai voulu savoir au-delà ce que c'était que, au-delà de la météo, le climat par exemple. Et au-delà de la météo ponctuelle pour ne pas être dernier en régate, qu'est-ce qui se passait? Je suis allé dans le milieu des océanographes. Qu'est-ce que vient Orsena nous faire chier dans notre domaine? Ça a été comme ça. Et puis ils se sont dit, bon, le mec il bosse, et puis il sait rien mais il apprend, et puis en gros il raconte mieux que nous. Alors on va peut-être faire un pacte entre lui et nous, c'est-à-dire on va l'aider. Et le lien, mais ça c'est Pascal qui le dira, il y a une sorte de relation, de confiance qui est née entre les scientifiques et moi en disant « je suis votre petit reporter, Tintin ». Mon rêve c'est d'être Tintin, avec plus de dames que dans chez Tintin, mais le rêve c'est quand même Tintin. Et donc ça s'est passé comme ça. Donc vous voyez, avec le milieu scientifique. Et donc le milieu scientifique, c'est merveilleux. Moi je suis stagiaire, le vieux stagiaire de l'Académie des sciences, dont Pascal était perpétuel. Et donc c'est un bonheur avec eux, parce que, imaginez, quel que soit le domaine, j'appelle et j'ai une réponse. C'est-à-dire c'est une encyclopédie vivante. Comprenez, quand je comprends que dalle sur le ciseau moléculaire, le CRISPR-Cas9, etc., bah, d'abord, je lis un livre de Pascal, ensuite, ma femme me traduit, on rappelle, et dit, t'as compris, t'as pas compris, non, j'ai pas compris, avec une relation avec les scientifiques formidables, leur dit, écoutez, vous avez un mec comme moi, disons, de moyenne intelligence, d'une curiosité de malade mental. Donc, si je comprends pas, c'est votre faute, tu recommences. Alors, ils gueulent. Mais après, ils sont contents, parce que si jamais je ne comprends pas, ça veut dire qu'ils ont manqué un chaînon de prof. Donc voilà, c'est ça l'affaire. Et ce qui est en train de se passer, c'est inquiétant et passionnant. C'est-à-dire le monde que j'ai connu, moi, en tant que petit économiste, London School, tout ça, machin, etc., c'était la croissance. Donc enrichissez-vous, très bien, pourquoi pas, c'est bien, machin, on a ce qu'on peut imaginer. Pourquoi pas, moi j'aime l'économie, je salue les entreprises, etc., etc. Maintenant, on sait que c'est fragile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on invente. D'où les propositions.
Et vous nous dites, on a déconné. Ma génération a déconné.
Oui et non, parce qu'en même temps, on a inventé, la situation de la médecine maintenant par rapport à il y a 20 ans, je veux dire, ça n'a rien à voir. Les traitements des cancers, mais les derniers, là, sur l'immunologie, on voit avec Pasteur les différents points comme ça, sur nos projets. Moi, vous savez, je me retrouve, par les hasards de la vie et quelques manigances, élu à l'Académie française. Bien. Je suis à l'Académie. À côté de moi, à ma droite, il y a François Jacob. 12 ans. Tous les jeudis, François Jacob. Le prix Nobel. Alors, comme on s'ennuyait à l'Académie, pour être franc, comme en classe, il parlait. Il me parlait. Et alors, Hélène, avec ses yeux noirs, m'engueulait. Je disais, c'est pas moi, c'est lui. Elle n'osait pas l'engueuler parce qu'il, d'abord, il était Nobel, donc on n'engueule pas un Nobel, et en plus, il est super beau mec, et je pense qu'elle craquait un peu pour lui. Et donc, j'étais peinard, donc on parlait. Alors lui, compagnon de la Libération, etc., on parlait sans arrêt. Et il me dit, mais comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur? Parler comme ça, François. Je lui dis, parce que... Alors, il me disait cette phrase incroyable. Deux phrases, il me dit, un, quand même, t'es économiste, donc tu connais rien à l'essentiel. Et deux, t'es un romancier, donc t'es un menteur. Donc, bosse un peu. Et le François, il est mort alors que j'étais en train de finir ma petite biographie de Pasteur, où honnêtement, j'ai fait, je crois, 70 livres à ce jour. Jamais j'ai trouvé un titre aussi beau que celui de la biographie de Pasteur, c'est-à-dire la vie, c'est son boulot, la mort parce qu'il perd des petites filles, et la vie qui gagne quand même. Et donc c'est grâce à ça.
Mais je vais revenir encore. Au fleuve.
Oui, revenez au sujet.
Si vous permettez, cher Eric Orsena, parce que oui. Je me suis permis de vous citer, parce qu'en écoutant certaines de vos interviews, j'ai été interpellée par cette phrase où vous nous dites « Ma génération a déconné, mais ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un de pessimiste. Il y a des solutions. » Donc c'est un livre qui pose à plat les choses. La cartographie est là, les chiffres sont précis, les portraits sont là. On découvre au fil de ces fleuves de France, d'Europe et d'ailleurs différentes solutions. On va jusqu'à l'Australie, le laboratoire de la rareté, vous nous dites. On découvre à quel point nous qui voulons toujours des solutions binaires, des chemins tracés, à quel point il faut peut-être aller piocher différentes idées à gauche, à droite. Et vous nous dites, voilà, je reconnais, ma génération s'est laissée embarquer, mais il y a encore des raisons d'être positif. Quelles seraient-elles alors vis-à-vis de tous ces fleuves et vis-à-vis de l'eau ?
Il y a, alors sur l'eau, tout ça est évidemment immense parce que tout ça est lié, mais évidemment, il y a l'économie d'eau, on le sait. Bien sûr, il faut économiser l'eau de toutes les manières. Je suis en train de finir un livre avec Julien Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, sur les questions d'eau. Donc on peut, et on est en train, c'est ça aussi la force,
consommer mieux.
Consommer moins, mais nous-mêmes, et puis les plantes. On peut trouver des plantes qui consomment moins d'eau que les autres au même moment. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur la situation de l'eau, ouais. Si vous permettez. Juste la situation de l'eau. Il y a la même quantité d'eau toujours dans la grande circulation, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. La même. Ça n'a pas changé. Le changement avec le changement climatique, dérèglement climatique, c'est la question d'inégalité. C'est-à-dire que l'eau, au lieu d'être répartie à peu près également tout au cours de l'année et un peu de façon stable sur la planète, se concentre. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a une des précipitations terribles concentrées sur 2-3 jours, qui auparavant s'étalaient sur un mois, par exemple. Vous avez vu les dernières précipitations à Pékin. Vous avez des inondations terrifiantes en 3 jours, il est tombé ce qui tombait en 4 mois. Donc il y a cette concentration-là.
Souvenir, récemment.
Exactement, partout. Donc il n'y a plus cette régularité-là. Et puis les régions qui n'avaient pas beaucoup d'eau en auront encore moins. Alerte rouge sur tout le bassin méditerranéen, ce qui va poser des tas de problèmes, notamment en termes d'immigration, non compris ce qui est en train de se passer dans l'Afrique de l'Ouest, voyez, et les régions qui ont beaucoup d'eau en auront encore plus. Donc vous voyez, il y a une sorte d'égalité. Ce qui d'ailleurs m'intéresse en tant qu'analogie, c'est-à-dire que la théorie économique macronienne dite du ruissellement, c'est-à-dire que la croissance bénéficie à tout le monde, est aussi remise en cause. Parce qu'on peut dire que ceux qui sont riches sont de plus en plus riches, ceux qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, de sauter d'une échelle à une autre échelle, sans arrêt. Un peu dans un esprit, moi je suis fou des écrivains ou des artistes de la Renaissance. Lisez, quand vous avez un moment, le gros recueil des carnets de Léonard de Vinci. La moitié de ses écrits sur l'eau. La moitié de ses écrits, c'est sur l'eau. Et quand il parle de peinture, une grande partie de ses notes, c'est sur les moires, c'est tout, ces étoffes qui ressemblent à la surface de l'eau. Et Vinci, il est exactement ça dans ce lien-là, vous voyez ? Donc, alors, il y a des solutions. Les solutions sont d'abord, évidemment, les économies de toutes sortes, les économies nous-mêmes, etc. Il y a évidemment le recyclage. Car nous pouvons évidemment reprendre, il y a des règles en France, de recyclage, par exemple, les eaux usées, on ne peut pas les utiliser pour les potagers. Bon, alors, et on est très, très en retard dans le recyclage, nous, par rapport à Israël, ou par rapport à Singapour, où j'ai été, où il y a ces mécanismes-là. Bien. Vous avez aussi des gestions un peu automatiques de toute la circulation de l'eau. Dans les endroits où vous avez des petits cours d'eau et puis une grande pression agricole. Et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à l'Australie, parce que l'Australie est l'avant-garde de dérèglement climatique. L'Australie a énormément besoin d'eau, parce que les deux bases de son économie sont l'agriculture, comme vous savez, et l'industrie minière. Ce sont les deux industries qui ont le plus besoin d'eau. L'agriculture, on le sait, mais aussi la mine. Parce que pour extraire le minerai de la gangue, il faut énormément d'eau. Donc comment ils gèrent l'eau, c'est passionnant de voir ça. Et puis, alors on peut continuer.
Avec une problématique d'eau salée, de désalinisation.
Alors, la désalinisation, ça c'est exactement le cas d'école. Parce que, évidemment, notre planète, c'est la planète bleue. Aucune matière n'est plus présente que l'eau salée. Donc dire que on va manquer d'eau sur notre planète Terre, c'est n'importe quoi, puisque dans aucune autre planète connue, il y a autant d'eau que chez nous.
Mais il faut beaucoup d'énergie pour dessaler.
Mais la question est ça, c'est que pour dessaler, il faut vous projeter dans les membranes de l'eau avec une pression de 80 bars. Donc c'est-à-dire énormément d'énergie. Et c'est là où vous voyez que si vous êtes spécialiste de l'eau et vous connaissez rien à l'énergie, mais vous êtes un Mickey. Et j'insulte Mickey. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une question d'énergie. Donc, ce qui m'intéresse ici, et j'ai un rendez-vous dont j'attends beaucoup avec la municipalité de Dieu, parce que ici, il y a un lien entre une nouvelle gestion de l'eau et une nouvelle gestion de l'énergie. Avec un club très intéressant d'installation de panneaux photovoltaïques, et on va regarder avec eux. Parce que, et là, je vais revenir à la géographie. Quelle est la bonne échelle à laquelle on doit régler l'eau? Je vais revenir un peu en arrière. Il y a 3 ans, le ministère des Finances, dans sa grande sagesse, a dit « On en a marre des alliances de l'eau, il y a de la gabegie, etc. On va tout reprendre chez nous. » Pour une logique deux fois imbécile, à Paris, on fait mieux et pour moins cher. C'est deux conneries cumulatives. Parce que quelle est la bonne échelle de la gestion de l'eau? C'est évidemment des échelles régionales ou départementales. Il se trouve que moi, dans les temps plus anciens, j'étais au fond opposé à la notion de département. Et je me suis rendu compte que la notion de département est souvent très pertinente pour régler les questions d'eau. Je prends l'exemple en Vendée. Eh bien, la gestion de l'eau entre la Vendée et les Deux-Sèvres, ça n'a rien à voir. Et comme par hasard, Sainte-Soline, c'est dans les Deux-Sèvres et c'est pas en Vendée. Et la gestion en Vendée, c'est passionnant. J'ai passé une semaine, il y a un mois en Vendée, parce que je fais le tour du monde des solutions. C'est-à-dire après ce livre-là, qui est le constat plutôt, les solutions. C'est-à-dire les solutions un peu partout. Eh bien, je vous assure, il faut être quasiment village après village pour voir comment vous faites. Et la gestion de l'eau en Vendée avec la vallée du lait, par exemple, j'y retourne là, à la fin du mois d'août, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez ce mécanisme-là.
Mais avec une manière de se pencher qui est quotidienne, puisque vous insistez pas mal, et c'est au travers de cette instance que vous présidez maintenant des grands fleuves, dont on retrouve d'ailleurs l'organigramme en fin de cet ouvrage, et on voit à quel point les énergies que vous avez rassemblées viennent d'horizons complètement divers. Pour étudier l'eau, il faut aussi être historien, il faut aussi être sociologue, il faut aussi être médecin, faut arrêter de siloter.
Alors, ça c'est un exemple qui m'est arrivé au Vietnam. J'avais cette intuition, mais j'incarne toujours les choses, vous voyez, avec des personnages. Yersin, immense savant, couvert, verrue, la peste, tout ça, etc. Et je vais là où il était, au Vietnam. Et je vois le petit pagodon, en hommage à Yersin, la tombe de Yersin. Et il y avait des petites coupelles avec des bâtons d'encens. Petites coupelles, il y avait du riz pour faire tenir les bâtonnets, mais il y avait aussi plein d'eau. Donc des larves de moustiques. Donc des larves de, évidemment, de paludisme.
De maladies potentielles.
Donc celui qui avait fait reculer la peste, d'une certaine manière vaincu la peste, était le lieu même où allait naître cette maladie terrible. C'est quand même 400 ou 500 000 morts chaque année, donc et qui touche les plus fragiles, et notamment les enfants, et les plus démunis. Donc vous voyez, je me suis dit, là il y a un truc qui se passe là comme ça, de lien. Je suis, vous savez, j'étais à cet enterrement, et chacun a ses croyances, et il se trouve que j'ai écrit sur Beethoven. Et j'ai travaillé beaucoup avec des musicologues que je ne suis pas. Et la grande Missa Solemnis, il regarde comment ça se passe. Au début de la composition, Beethoven, on a l'impression qu'il croit une transcendance. Et petit à petit, au fur et à mesure, avec l'enchaînement des mineurs, des modes mineurs, on s'aperçoit que sa croyance est devenue horizontale. Pas de transcendance, sa seule religion, c'est la fraternité horizontale. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La passion de la fraternité ». Et donc ce mécanisme-là, je me disais en participant à cette cérémonie d'hier que c'était ma religion à moi. Mais religion, ça veut dire quoi? Et c'est au fond, c'est comme ça que j'ai fini mon discours d'entrée à l'académie, religare, recueillir et relier. Relier, le côté religieux. Et au désir de recueillir. Donc voilà, c'est ça le mécanisme. Et qu'est-ce que l'eau? C'est la matière qui relie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'eau, vous avez les nutriments d'un côté, les usines chimiques de l'eau dans la cellule, et rien ne passera. C'est-à-dire que l'eau, c'est la maladie qui permet, et là, l'élan qui permet de rompre la solitude, et en rompant la solitude, elle permet la vie. Et ce qui est, et si vous changez d'échelle, vous regardez ce qui se passe avec l'Antarctique, où j'ai été pendant 8 semaines avec Isabelle Autissier, encore un autre cadeau de l'amitié. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à une date finalement assez récente, l'Antarctique est un continent plutôt chaud. Et on a des tas de fossiles qui le montrent. Et puis, dérive des continents, l'Antarctique se sépare de la pointe sud de l'Amérique latine. Donc naît un courant, le courant Circum, comme ça, Antarctique, qui interdit aux eaux chaudes de venir de l'équateur. Ce qui fait que l'Antarctique devient froid. L'Antarctique devient froid, les précipitations deviennent des glaces. Donc il devient de plus en plus froid, donc de plus en plus blanc, donc de moins en moins chaud. Puisque il renvoie les rayons du soleil, c'est aussi une des raisons de lutter, nous, de mettre des panneaux un peu partout et puis du blanc au lieu du sombre sur nos toits. Et petit à petit, ce qui fait que, en résumé, c'est très simple. Comme l'absence de l'eau, l'Antarctique, c'est un drame de la solitude.
Bien, sur ces mots, merci encore. On va laisser la parole à ce public si nombreux qui est venu, c'est un petit peu la tradition ici, vous permettre à vous aussi de poser des questions à notre invité. Qui veut commencer?
Cher Eric, comme médecin infectiologue, j'ai envie de dire mon cher confrère. Parce que vous êtes certainement plus qu'un médecin. Moi, j'ai aimé deux choses. La première, c'est One Health, une santé. Santé humaine, santé animale, Pascal le sait bien aussi. Et santé environnementale, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que vous avez dit sur les moustiques, formidable. Parce qu'aujourd'hui, ce fameux tigre albopictus, il est partout. C'est Zika, c'est chikungunya, c'est la dengue. Et on a à la Salpêtrière des cas autochtones de dengue aujourd'hui, de gens qui n'ont pas voyagé. Je referme la parenthèse, je vais dire deux mots sur l'eau. Le peu et le trop. Le trop, le Bangladesh. Le Brahmapoutre, plus la saison des pluies. Et j'ai fait plusieurs missions au Bangladesh, et une des causes la plus importante de mortalité, c'est la mort par piqûre de serpent. Parce que quand il pleut, quand il y a des inondations, les serpents sortent et ils piquent les individus. On dit beaucoup sur le trop. Le peu, vous en avez dit un mot, ben c'est le manque d'eau, en particulier pour tout le Méditerranéen et l'Afrique, et donc les migrations. Et comme médecin, toute la pathologie liée aux migrants. Je ne parle pas des problèmes de santé mentale, mais la tuberculose qui est en train d'exploser. puisqu'on sait que le stress et les migrants, c'est aussi la tuberculose. Donc voilà, je voulais dire ça. Puis je rappelle, je vous avais rencontré au Quai d'Orsay il y a quelques années, vous étiez candidat pour rentrer à Action contre la faim, et vous m'aviez parlé de votre passion des automobiles et des belles voitures. Est-ce que vous l'avez toujours? Vous aviez une très belle... très belle... très beau petit modèle dans votre bureau de voiture.
Ouais, enfin, c'était un petit modèle, hein.
Voilà, petite question sur le...
C'était juste une maquette. Non, il se trouve que c'était un lien avec mon papa. Mon papa qui était à la fois officier de réserve dans l'aéronaval et qui faisait de l'aviron, mais aussi était dans les voitures. Donc petit, j'allais l'accompagner pour ses entraînements à Montlhéry. Évidemment, ma mère lui faisait jurer de jamais me faire entrer dans sa voiture, qui était une DB. Bien sûr, il ne tenait pas sa promesse. Donc j'avais 7-8 ans, j'avais un casque, tout ça, et on partait. Et c'est là où je chronométrais ces temps sur le circuit routier, de tout ça. Donc la voiture était là. J'ai même fait un livre sur la Formule 1 pendant 2 ans, où j'ai été. Et alors j'ai fait des trucs de folie absolue. Par exemple, j'en frissonne encore, j'ai été invité à l'occasion d'un Grand Prix de Monaco à faire un tour sur une petite barquette Renault qui était évidemment pas la vitesse de la Formule 1, mais être à 220 à l'heure sur dans le tu vois, descendre du casino, descendre là ceux qui connaissent, tu vois, et puis plonger dans le tunnel du Loeufs et surtout arrêter juste avant la piscine. Enfin, je peux parler de voitures de course presque aussi longtemps que de bateaux.
Bien, une autre conférence peut-être.
C'est dire. C'est dire. Alors, le Bangladesh. Le Bangladesh, le trop. J'y retourne là avec notre association et beaucoup de gens de friendship que tu connais là-bas. Je retourne beaucoup. Ce qui se passe est très intéressant parce que ça nous concerne aussi. Le Bangladesh est un delta. 600 millions d'êtres humains habitent un delta. Tous les deltas du monde sont menacés, y compris la Camargue, pour toujours la même raison. Qu'est-ce qu'un delta? C'est le fils de sédiments, l'enfant de sédiments. S'il y a moins de sédiments, il y a moins de delta. Si vous multipliez les barrages en amont, vous n'aurez plus de sédiments. Donc vous n'aurez plus de delta, premièrement. Et je me souviens de Calcutta, où j'y avais été pour Pasteur, pour regarder un peu comment c'était une épidémie de choléra. Parce que comme on gère mal la différence entre l'eau potable et l'eau des toilettes, etc., choléra. J'étais en plein milieu d'une épidémie de choléra. Je vois le maire de Calcutta qui me dit « Je sais que demain, vous allez... » au Bangladesh, vous dites aux gens du Bangladesh qu'on n'en peut plus des immigrés. Car vous avez vu dans quel état est Calcutta, notre état de détresse économique, donc dites-leur qu'ils arrêtent de venir chez nous. Je vais à Dhaka, au Bangladesh, je vois le ministre de l'équipement qui me dit « Puisque après votre voyage chez nous, j'ai appris par l'ambassade que vous retournez à Calcutta. Vous voudrez bien dire à ces fils de pute que si je suis pas garant de la traduction, que si j'avais pas construit un barrage sur le Gange, 50 km avant notre frontière, nous n'en serions pas là. Pourquoi? Parce que ce barrage a diminué le flux d'eau salée, d'eau douce, qui permettait de lutter contre la beauté de l'eau salée qui vient du golfe du Bengale. Et là, on est en plein dans la question de l'articulation des phénomènes. Parce que les deltas, souvent, étaient protégés par des végétations naturelles qui sont les mangroves, que les mangroves ont été énormément diminuées parce qu'on voulait élever des crevettes et on urbanisait. Donc ces barrières naturelles contre les inondations venant de la mer étaient rompues. Très bien. Et donc il y a ce mécanisme-là. Si vous rajoutez là-dessus le réchauffement général, Réchauffement veut dire dilatation de l'océan. Donc veut dire c'est-à-dire une tendance de l'océan à monter. Et évidemment de façon différenciée selon les régions. Et quand vous avez le golfe du Bengale, qui est relativement peu profond et très chaud, il y a une dilatation plus forte dans le golfe du Bengale qu'ailleurs. Donc il monte. Donc vous voyez, tous ces mécanismes. Plus un autre mécanisme, c'est que les deltas, évidemment très fertiles, ont été le lieu dans les temps très anciens de végétation. Les végétations se sont changées en carbone. Le carbone s'est changé en quoi ? Changé en quoi ? Eh bien, évidemment, en pétrole et en gaz. Donc on creuse et ça s'effondre. Donc tous ces mécanismes-là. Donc 600 millions d'êtres humains sont menacés par ce qui va se passer, c'est-à-dire le trop d'eau qui est parce que les deltas sont en train de passer. Et ce qui se passe en ce moment dans la Camargue, il se trouve, je suis parrain du festival de Camargue, j'y vais régulièrement maintenant, c'est très très passionnant. Parce que à l'œuvre, vous avez deux convictions qui sont légitimes, qui s'affrontent. On est dans les contradictions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, étant donné que la Méditerranée se dilate et tend à monter, et qu'on peut moins prélever dans le Rhône parce qu'il y a un moindre débit, etc., etc., donc on va faire une digue. Et d'autres qui disent, non, on va laisser aller l'eau salée monter. Avec des enjeux très fins qui, moi, me passionnent, parce qu'à ce moment-là, on revient à l'ornithologie. Parce que les flamands, qui sont évidemment des énormes attirances pour les touristes, les flamands, ils aiment un certain taux de sel. Si le taux de sel grandit, les flamands vont se tirer. Donc, il y aura moins de touristes. Il y aura moins de ces touristes-là, qui aiment la nature, mais quand elle est flamand rose. Mais il y aura beaucoup plus de diversité d'oiseaux. Mais c'est des oiseaux plus petits, avec moins de couleurs, qui font chier tout le monde, à part ceux qui aiment vraiment la nature. Comprenez ? Parce que les petits, un chevalier gambette, ça n'a jamais attiré quelqu'un suffisamment pour payer 300 euros sa chambre d'hôtel. Donc moi, je suis... Je repère les contradictions.
Et la complexité.
De ce genre, et la formidable complexité du vivant. Je rajoute un point.
Okay.
Il se trouve que... on a encore 2 heures, c'est ça ?
2 heures, c'est ça.
D'accord. Alors, en mars
peut-être
dernier...
d'autres questions aussi ?
En mars dernier, j'ai été à New York. Il y avait la conférence mondiale de l'eau. Alors, comme je suis complètement mégalo, j'ai accueilli sans étonnement que la journée mondiale de l'eau soit le jour de mon anniversaire. C'est tout. Je voulais vous le dire. Et donc, voilà. Et j'ai été à New York. À New York avec l'association et d'ailleurs avec Tara. Pourquoi ? Parce que vous avez un massif dans la... Et vous allez voir, on est en plein dans l'actualité. En plein dans l'actualité la plus angoissante. Il y a un massif en Guinée qui s'appelle le Fouta Djallon. Ce massif est le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest. Tous les grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest viennent de là. C'est-à-dire, vous avez le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le fleuve Niger. Et le fleuve Niger. Suivez ce qui se passe en ce moment. Bien. Ce massif, il est menacé de 3 manières. Premièrement, comme dans tous les endroits du monde, voire l'Amazonie, on dévaste pour planter plus. Deuxièmement, les troupeaux sont de plus en plus importants pour nourrir, donc qui évidemment, dévastent les têtes de source. Mais en plus, sous les arbres, dans quelques parties du massif, vous avez la malédiction des matières premières, c'est-à-dire vous avez la bauxite, qui est la matière première de l'aluminium. Donc des gouvernements, qu'on va dire pas complètement honnêtes, donnent des concessions d'exploitation de la bauxite, c'est-à-dire ils ravagent des zones gigantesques pour l'extraction, et d'autres zones gigantesques pour le transport des minerais jusqu'au port de Conakry. Ce qui veut dire que, si jamais ça continue comme ça, vous allez avoir un massif forestier, donc source d'évapotranspiration, donc de précipitation, qui va se transformer en savane, donc avec beaucoup, beaucoup moins de capacité de précipitation, donc assèchement des sources. Premier mécanisme. Mais Il faut compléter ça par une autre échelle. Une autre échelle qui vous oblige à aller beaucoup plus loin et avec une échelle de temps différent. Et là, c'est l'amitié une fois de plus avec tous mes amis de Montpellier. Gloire à Montpellier qui est un des plus hauts centres mondiaux du savoir du vivant. C'est-à-dire c'est là où vous avez en même temps les juristes, les économistes, depuis Rabelais, la santé, etc., qui étaient là. Et donc vous avez là, dans cet mécanisme, un type que j'adore, qui est devenu mon frère, qui est Éric Servat, qui est un des grands hydrologues français, avec qui on fait des hackathons, des trucs comme ça, justement pour les solutions, au niveau des classes. Et il me fait rencontrer un mec super, et qui me dit, ce que vous avez écrit là, non, ça ne va pas, c'est incomplet. Ah bon ? Ouais, c'est incomplet. Parce que vous avez oublié le jet stream. Ah bon ? Moi, oublier le jet stream ? Moi, j'aurais oublié un jet stream ? Ouais, petit mec. Et donc, y a un jet stream, figurez-vous, qui naît au-dessus du Tibet, et qui va d'est en ouest, à 15 km d'altitude. Et il naît à ce moment-là, vers à peu près le mois de mars, et il va vers l'ouest. Et quand il rencontre les terres extrêmement chaudes de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, les conditions de température et de pression diminuent, ce qui fait que ça devient des précipitations. Et ce qu'on appelle la saison des pluies. Et la saison des pluies en Afrique de l'Ouest vient du Tibet. Ce qui me permet, en conclusion, provisoire, de bien vous faire comprendre l'importance géostratégique majeure du Tibet à 300 ou 400 millions d'êtres humains près. La moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet. La moitié de la population mondiale. Vous passez par là, vous prenez par là, hein, vous prenez l'Indus, vous êtes là, le Gange, Brahmapoutre, vous descendez, doucendez, voilà, évidemment, le fleuve rouge, le Mékong, le Yangtze, le fleuve jaune et tout ça. Si vous voulez qu'on parle de l'Asie, je suis à votre disposition.
Non mais quand on écoute tous ces constats et cette complexité, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de résolument optimiste ?
Mais parce que d'abord, j'ai une petite morale qui est un l'émerveillement. Si on n'avait pas ce trésor, comme disait Monod, fruit du hasard et de la nécessité qui est notre planète, pourquoi est-ce qu'on battrait pour elle ? Et que je vois quand des crétins absolus de milliardaires, il y en a d'intelligents mais d'autres vraiment, c'est hallucinant, qui lancent des programmes immobiliers sur ce caillou de merde qui s'appelle Mars, je veux dire, la planète B, C, W, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, émerveillé. C'est pour ça que s'émerveiller de l'eau, c'est moins facile que s'émerveiller d'un fleuve. Et moi, je suis là avec Bruno, mon maître, là. J'ai navigué autant sur l'eau douce que sur l'eau salée. Et que j'étais à l'ICIF, Club Île-de-France, avec mon petit Mosserop et tout ça. Et donc, c'était pareil. Donc, je suis fou des fleuves et des rivières, fou d'émerveillement, de fragilité, de négociation, de comment est-ce qu'on fait. Vous savez, j'ai eu 2 mètres en navigation. Hein. D'abord, le bateau à voile et puis Mitterrand. Donc, vous savez naviguer. Et donc, voilà un peu comme ça. Et donc, voilà, je dis souvent que comment expliquez-vous la non-carrière que vous avez faite ? C'est très, très simple. Une éducation religieuse. Saint-Jean de Béthune, Versailles, merci. Oui. Et puis ensuite un postdoc avec Mitterrand, donc vous pouvez aborder pas mal de trucs.
Donc l'émerveillement. Donc, voilà. Donc, optimiste, l'émerveillement.
S'émerveiller, voilà. Alerter.
Non mais alerter, connaître.
Bien sûr, connaître,
c'est
et proposer.
Surtout ça, s'informer.
Et connaître grâce à l'amitié. Pascal,
alors,
je te redis ma gratitude et mon affection.
À Pascal que ça, et à Bruno Troublé que vous avez cité,
Bruno,
qu'on retrouvera
Bruno,
en conférence.
C'est là quand je vois Bruno.
Et bien Arnaud.
Là, moi, la famille Troublé, c'est quand même quelque chose. Hein.
Voilà, grand skipper, voilà. Mais on en parlera lundi prochain. Bruno Troublé sera l'invité d'un lieu, une rencontre ici même.
L'auteur,
bien sûr, de pas une minute à perdre.
Nouvel auteur qui a. Heureusement que j'ai fait beaucoup de livres avant, parce que là, je vais avoir un concurrent redoutable.
Une autre question. Alors, Betty.
J'aurais voulu que vous me parliez un petit peu des bassines qui suscitent tant de polémiques.
Mais madame, j'étais prêt à le faire.
Bassine et impact, c'est des mots que vous n'aimez pas trop.
Exactement.
Alors, vous n'aimez pas le mot bassine et vous n'aimez pas le mot impact.
Alors, je n'aime pas le mot bassine parce que dès que vous dites bassine, vous êtes forcément en état de suspect, etc., etc. Donc je préfère, question de la réserve d'eau, les réserves. Alors, et c'est là où on doit vraiment faire attention à la géographie. Et qu'on arrête ce centralisme intellectuel de dire tout est pareil de Dunkerque jusqu'à Cayenne. Ça ne marche pas comme ça. Et moi, j'ai été longtemps au Conseil d'État et ce genre de truc. Je reviens à quelque chose d'un peu plus large, mais quand vous imaginez qu'en France, jusqu'à une date assez récente, vous aviez ce qu'on appelle une expérimentation. On expérimentait une mesure. Ou c'était valable sur l'ensemble du territoire, on l'adoptait, ou c'était pas valable, pour des raisons de justice, machin, etc. Bon. Alors, chez moi en Bretagne, il n'y a pas de nappe phréatique. Parce qu'il y a sauf à quelques exceptions près. Parce qu'il y a un socle granitique, quand ça coule, ça se déverse. Pourquoi ne pas réserver l'eau ? Pourquoi ne pas la réserver ? Et d'ailleurs, si ça se déverse, inconvénient et avantage, c'est qu'on voit tout de suite comment c'est pollué. Parce qu'il y a d'autres endroits où ça ne se déverse pas, comme en Beauce, et le taux de nitrate, honnêtement, c'est sérieux si vous êtes en dessous. Et je travaille en ce moment beaucoup sur les nappes phréatiques. Donc vous voyez, donc là, pourquoi pas ? D'autres endroits, évidemment, c'est beaucoup plus dangereux parce que vous n'allez pas réserver suffisamment d'eau pour la continuité du cycle. Et aussi, qui va bénéficier de cette eau ? C'est-à-dire que c'est une question à la fois d'injustice vis-à-vis de la circulation hydraulique et de l'injustice vis-à-vis de l'économie. Mais c'est pour ça que je prenais précédemment l'exemple de la grande différence entre les Deux-Sèvres et la Vendée. Car dans la Vendée, en Vendée, vous avez des tas de réserves. Petites, partagées, construites depuis... C'est pour ça que j'ai passé une semaine dans la vallée du Lay, que je vais d'ailleurs bientôt descendre en kayak, et donc regarder avec... vous voyez à quel point je suis courageux dans les navigations extrêmes, parce que le Lay, quand même, c'est du costaud, vous voyez, ce genre de truc. C'est que, heureusement que j'ai appris à naviguer à l'ICIF et comme ça, et que les leçons de Bruno m'ont permis d'affronter vraiment la Vendée rugissante. C'est vous dire que quels sont les lieux, comment ça se passe, quels sont les lieux à qui ça profite. Et quels sont ce profit à court terme, à long terme ? Parce que vous voyez bien que dans ce mécanisme-là, vous avez cette merveille de la langue française qui met dans le même mot le temps qui fait et le temps qui passe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une échelle géographique et une échelle temporelle. À la différence de ces crétins d'anglais qui mettent « weather et time ». Que j'aime tendrement, bien sûr, comme tous les marins français, on adore les Anglais, comme vous savez. Et donc, voyez, donc pour répondre à la question, dites-moi où, à qui ça profite, et quelle est l'incarnation dans l'espace et dans le temps, je vous dirai si je suis pour ou contre les réserves, et pas les bassines. Vous comprenez, c'est plutôt les réserves. Pourquoi pas les réserves ? Mais pourquoi pas, mais à quel moment ? Comprenez, c'est un peu ça la réponse. Alors, c'est une réponse de Normand qui vous est offerte par un Breton.
Peut-être bien que j'ai une autre question.
Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions, l'une dans l'autre. Premièrement, la présidente de région était là il y a quelques jours. Elle précisait que dans les Pays de la Loire, 11% de l'eau n'était de bonne qualité uniquement. Alors qu'il y a quand même la Loire, il y a quand même effectivement, comme vous le rappelez, tout ce littoral. Et la deuxième question, donc c'est finalement quel est le problème et les solutions de la qualité de l'eau, bien évidemment sur la santé, voilà, il y a plein de... Et la deuxième question, tout en étant émerveillé effectivement et positif pour l'action privée,
Qu'est-ce que vous pensez finalement de la culture générale des grands délégataires comme ici SOR, Veolia, Suez, qui dans le monde finalement au quotidien traitent la gestion de l'eau, les fuites, la qualité de l'eau, les eaux de pluie, les stations d'épuration et finalement même le recyclage de l'eau. Donc finalement eau.
Alors, voilà. Première question, la qualité. Alors la qualité, il y a deux choses. D'abord, bonne nouvelle. On a des analyses de plus en plus fines, c'est-à-dire qu'on repère des menaces qu'on ne repérait pas avant. On repère des molécules dont on ignorait même l'existence avant. Donc il faut savoir un peu ça aussi. Donc première chose. Deuxième chose, c'est clair qu'il faut, continuer sans arrêt à regarder la qualité. Donc ça, on est absolument d'accord. Et je reviens sur votre deuxième question. Il se trouve que quand j'ai écrit « L'avenir de l'eau », il y a eu une polémique en disant « Je vous croyais de gauche, mais vous n'attaquez pas les grandes entreprises de l'eau ». Alors, un, je suis dans cette catégorie de la gauche qui s'appelle la social-démocratie, c'est-à-dire que j'aime l'entreprise. Et qu'avant de distribuer, il faut mieux produire un peu de valeur. J'aime l'entreprise. Donc ça, ce mécanisme-là. Et j'avais osé dire une phrase que je maintiens. C'est-à-dire que le secteur public n'a pas le monopole du service public. C'est-à-dire vous pouvez déléguer. Avec des contrôles. Avec des preuves à certains moments, et vous pouvez interrompre les contrats et non pas avoir des contrats de 50 ans comme on a vu, des corruptions, etc., etc. Mais étant donné les enjeux, la difficulté des enjeux, la nécessité de comparaison internationale, la nécessité d'investir dans la science, je veux dire, pourquoi se priver du privé, ce mécanisme-là? Et je dois vous dire que le taux de recherche dans les entreprises privées de l'eau est bien plus important que notre taux de recherche à nous, public, qui est un des plus honteusement bas dans toute l'Europe. Donc voilà ma réponse.
Et saluer l'agence de l'eau, dit-il.
Non, mais alors, l'agence, moi les agences, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire quand on a attaqué les agences, on a été à quelques-uns, dont évidemment les élus, mais moi aussi, on dit, oh, ben, vous ne rendez pas compte. Partout où je vais dans le monde, on me dit, mais comment on pourrait faire pour avoir des agences? Parce que les agences, il y en a 6 en France. Et les agences correspondent à un bassin. Et donc la bonne échelle, c'est le bassin. C'est pas un fleuve, c'est pas un effluent, c'est pas un confluent, c'est un ensemble de bassins. C'est pour ça qu'on reprend un peu les questions de médecine. Qu'est-ce qui se passe? Et si jamais vous avez encore un petit moment, parce que ça dure encore une semaine, à Lyon, au musée des Confluences, le bien nommé, il y a une exposition dont j'ai l'honneur d'être le commissaire scientifique, qui s'appelle « Nous les fleuves ». Et vous allez voir une immense carte de 6 mètres de long et 2 mètres de haut qui montre les réseaux hydrographiques du monde, dont les réseaux russes, où malheureusement j'ai pas pu aller, l'ALENA, l'OB, etc., etc. Vous voyez ça. Et je reviens à ce qu'on disait, c'est exactement une radio, avec un peu d'iode qui vous montre votre réseau à vous, partout c'est bouché, etc. Donc c'est un peu la même chose. Vous voyez, donc c'est ces réseaux-là. C'est pour ça que nous nous sommes battus avec aucune sorte de résultat, je dois vous le dire, à l'ONU, pour défendre ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Parce que jusqu'à une date assez récente, il y a eu très peu de guerres ayant l'eau pour enjeu direct. Maintenant, c'est fini. Parce que jusqu'à des temps un peu anciens, quand on se battait pour un puits entre deux tribus, ça mettait un peu d'animation dans le désert, parce que ces pauvres, ils n'ont pas Netflix. Mais quand vous avez... Il se trouve que depuis 2-3 ans, je suis prof à l'école de guerre sur la géopolitique des fleuves. On a le temps de parler du Nil ?
Oui.
Très bien. Alors, on parle du Nil. Alors, merci. Je suis à Addis Abeba, Éthiopie.
Éthiopie, oui.
Je rencontre l'ambassadrice qui me dit, écoutez, mon confrère, l'ambassadeur d'Égypte, veut vous parler. Très bien, je vais voir l'ambassadeur d'Égypte, excellent français, éducation religieuse, très bien, on parle. Il me dit, si nous envisageons de vous acheter des rafales, eh bien, c'est pas complètement par hasard, parce que nous savons, ils savent, hein, que demain, vous allez survoler le barrage Renaissance, que ces enfoirés d'Éthiopiens ont décidé de construire sans rien demander à personne sur le territoire éthiopien juste avant le Soudan. Bon, je vais survoler le barrage, on se pose, etc. et on visite le barrage. Quelle est la situation ? Le Nil, 80% du débit, c'est l'Éthiopie. On ne sait pas, mais l'Éthiopie, c'est un lieu de très haute montagne. Donc de réserves de neige, d'eau, etc., etc. Très bien, l'Éthiopie, lac Tana, etc., bon, très bien. 20%, c'est les grands lacs de la coupure du rift de l'Afrique de l'Est. 20% l'Éthiopie. Depuis les temps les plus anciens, le pouvoir était en aval, c'est-à-dire l'Égypte. Parce qu'il y a eu les pharaons, il y a eu l'Empire ottoman, et il y a eu le colonisateur anglais, qui a toujours interdit à l'Éthiopie de prélever de son fleuve de Nil dit bleu, plus de 5 à 10% de son débit. Sauf que, maintenant, si vous avez en gros 100 millions d'habitants en Égypte, vous avez 105 à 110 millions d'habitants en Éthiopie. Mais s'il arrivait la mauvaise idée à l'Égypte, pour qui le Nil, l'Égypte, don du Nil, vital d'attaquer l'Éthiopie, qui l'Égypte attaque ? Le principal pays d'investissement chinois. C'est là où beaucoup d'entreprises chinoises ont investi, pour une raison simple, c'est que le salaire moyen en Chine est en train de monter, 350 à 370 euros par mois, salaire, alors qu'en Éthiopie, ça peut être 70 à 80, peut-être moins. Donc dans les domaines comme le textile, la voiture, la pharmacie, etc., il y a beaucoup d'entreprises chinoises. Donc ça voudrait dire que l'Égypte, alliée plus ou moins des Occidentaux, attaque la Chine. Donc vous voyez ce genre de questions. Donc c'est ça que nous travaillons avec les militaires, et nous réfléchissons à ces questions. Si vous avez encore 2 heures, je peux vous parler de la situation turque, avec le Tigre, l'Euphrate, etc. Je peux, enfin, quand vous voulez, comme vous sentez, ce sujet m'intéresse, on va dire.
Mais il ne faudrait pas retenir non plus, parce qu'à vous écouter là ce matin, parfois, on pourrait comprendre que vous n'aimez pas les barrages, enfin, qu'il y a à chaque fois une problématique. Alors qu'en fait, il y a une autre. Et avec la Chine, il faut se rendre compte que...
Alors, encore une fois, les contradictions, c'est que les barrages, il faut savoir ce qu'on veut aussi en termes d'énergie.
Et voilà.
Et comme on voit avec les éoliens... les éoliennes. Moi, je dis avec mes amis bretons, et notamment, j'étais encore il y a 3 jours avec le président de région, écoute, mon cher Loïc, avec un G, hein, parce que Loïc. Voilà. Alors, nous détestons les éoliennes parce que paysage, on n'aime pas trop. Très bien. Il n'est pas question d'avoir du nucléaire parce que plug off, on ne va pas remettre la guerre. Bien. On va dire ce qu'on veut, mais enfin, le soleil n'est pas forcément notre matière première la plus permanente en Bretagne. D'ailleurs, je vois beaucoup d'anciens Bretons qui nous ont trahis et sont venus à Lisieux parce qu'il fait plus beau chez vous. Ce que je ne crois pas forcément, mais enfin, c'est comme ça. Je constate. Donc, voilà. Et alors, je leur dis, d'accord, et en plus, vous voulez être indépendant. Et en plus, vous détestez la méthanisation parce que dans le livre sur les cochons, que j'ai écrit aussi, parce que j'écris aussi la géopolitique des cochons. Et donc, je me disais, formidable. Les Côtes d'Armor et le Finistère Nord vont être le nouveau Qatar. Parce que grâce aux déjections des cochons, nous allons faire du méthane. Et comme ça, nous allons pouvoir racheter, au lieu de Guingamp, le PSG. Comprenez l'affaire. Et donc, eh ben, ça ne marche pas parce que les Bretons ne veulent pas non plus les camions qui transporteraient les déjections jusqu'au méthaniseur. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que ça m'intéresse énormément l'entretien que je vais avoir à la mairie à 17h sur ces questions-là de la bonne échelle du lieu. Comment est-ce qu'on fait ? À la fois de l'eau et l'énergie mêlées. Vous voyez ces questions. D'où Et peut-être parce que ça fait 8 heures qu'on parle, non ?
Non, mais enfin, il y a peut-être encore une autre question.
Une autre question. Ouais. Non, il y a un point que je voulais vous dire qui va vous confirmer que je n'ai aucune sorte de chance. Pourtant, j'aurais aimé, mais ma prochaine présentation à la candidature de présidence de la République, je suis contre les options à l'éducation nationale. Je voudrais un seul bac. C'est pas vrai qu'avant 17 ans, on est littéraire ou scientifique. C'est pas vrai. Ça dépend des profs, ça dépend de l'effort des petits loups et de temps en temps un petit coup de pied au cul très tendre, mais ça, c'est pas gênant. Et donc je suis contre ça. Les options, c'est la plus formidable moyen de mettre la poussière sous le tapis.
Bien, ça c'est...